On va essayer de terminer Josué aujourd'hui, mais ce n'est pas très grave. Je pense que l'année prochaine, j'ai prié là-dessus, je pense que l'année prochaine, on va commencer les juges. Donc, on reverra un petit peu la fin si on n'a pas terminé aujourd'hui. Et je pense qu'on commencera avec Déborah l'année prochaine. Donc, on reviendra un petit peu sur Josué pour bien comprendre le début du livre des juges. Donc, si on ne termine pas aujourd'hui, ce n'est pas très grave. Ça nous fera autant pour l'année prochaine. J'étais très contente des témoignages ce matin. Je ne savais pas qu'il y aurait des témoignages, mais ce n'est pas gênant si des messages commencent plus tard. Ça n'a aucune importance parce que c'est très, très important. Je crois que ça confirme le message de Josué que l'Église et l'école chrétienne sont entrées dans une période de conquête. Il y a eu toute une période de préparation. Il y a eu toute une période de désert. Il y a eu toute une période de difficultés. Et je dirais même que pour ce qui est de l'école chrétienne, peut-être certains ne l'ont pas su, mais ils ont vécu des grosses difficultés avec des églises. Et je dis merci Seigneur maintenant, parce qu'ils se sont de ce coup tournés vers les non-chrétiens. Et pourquoi est-ce qu'on fait une école chrétienne? Est-ce que c'est pour entretenir nos petits bambins chrétiens qui sont déjà noyés sous les versets bibliques à la maison et à l'école du dimanche? Ou est-ce que c'est pour être une lumière dans les ténèbres, pour être le sel de la terre? Voilà. Et je crois que le Seigneur les a amenés là au travers de tout un tas de difficultés. Et moi, je remercie le Seigneur, même si sur le coup, je trouvais que c'était dur pour eux. On les a accompagnés pendant un temps et c'est vrai que ce n'était pas facile de vivre ce qu'ils ont vécu. Hein. Mais je crois que le Seigneur les a bénis en leur rendant la vie difficile. Le Seigneur les a bénis parce que maintenant, ils se sont ouverts davantage vers les non-chrétiens. Et mon expérience aussi, c'est que les non-chrétiens, quand ils écoutent l'Évangile, ils sont passionnés. Moi, je le vois avec mes cinquièmes. Et pourquoi pas? On est là pour eux, on est là pour ça. Et on a malheureusement la tendance du peuple d'Israël de vivre pour soi, pour notre petit confort entre chrétiens. C'est vrai que c'est sympa hein, quand on est tous ensemble. Là, on l'a vécu à la pastorale. On est content de se retrouver, de se raconter plein de choses et tout. Mais on est là pour être la lumière du monde. Et je suis contente pour l'école chrétienne. Merci Seigneur pour les difficultés énormes qui ont mis même leur survie en cause. On a cru un moment, est-ce qu'ils vont survivre? Mais voilà, maintenant ils se tournent vers l'extérieur et merci Seigneur, c'est ce que Dieu voulait. Et je crois que c'est vraiment dans l'axe de la conquête. Et je crois que nous en tant qu'Église, c'est pareil. On est dans ce temps maintenant de la conquête. Et je regardais le groupe de louanges ce matin et je me disais, il faut vraiment maintenant que tout le monde soit imprégné de cette idée. Dieu est avec nous, il faut qu'on marche et qu'on rentre dans la conquête. C'est fini de vivre pour soi, pour se reconstruire. Il y avait un temps pour ça. Et vous savez, avec Dieu, il y a des saisons. Il y a une saison pour se reconstruire. Il y a une saison pour guérir. Il y a une saison pour être réparé, pour être cousu, comme les ours en peluche. Un petit peu tout ce qui est troué un peu partout. Les vieux ours, vous savez, qui sont si mignons. On les recoue un peu de partout, on leur remet les yeux, on recoue tout ce qui déborde. Et puis, il y a une saison après pour vraiment y aller et faire la conquête de Canaan. Et je crois vraiment sincèrement... Je ne suis pas prophète, mais je crois vraiment qu'on rentre dans cette saison comme l'école. On rentre dans cette saison où il faut faire connaître Jésus, où il faut être des témoins partout où Dieu nous a placés. Et je le vois dans la vie de tous ici. Il y a une petite chose que Julie n'a peut-être pas dit parce qu'elle pensait que c'était évident, mais moi je suis sidérée que sa sœur lui ait dit bravo. On prie depuis des mois pour sa sœur et je pense qu'il y a quelques mois, elle aurait poussé une colère parce qu'elle était très New Age. Vous pouvez demander à André. Il avait mangé à côté d'elle le jour du mariage de... C'était Alexis. Il en a un souvenir. Et pensez qu'elle dit bravo maintenant. Je dis, waouh, c'est presque incompréhensible à vue humaine. Là, on est en chemin. Et c'est important de le signaler parce que ça peut vous paraître, oui, bon, c'est bien, tant mieux, mais moi, je suis sidérée. Donc, Dieu agit. J'avais autre chose en préalable aussi que je voulais dire, c'est... J'y pensais ce matin pendant la louange. Où est-ce qu'on pose nos yeux? Où est-ce, sur quoi on fixe nos yeux? Parce que la louange ce matin nous a emmenés, je ne sais pas si c'était le cas pour vous, mais nous a emmenés un peu plus haut. On était un peu comme sur un avion. Hein. Puis on voyait les choses de plus haut parce qu'on fixait nos yeux sur Dieu. On a chanté des chants sur Dieu. Et il y a deux façons de vivre la vie chrétienne. Il y en a une super, c'est de fixer les yeux sur Dieu et de voir les choses d'en haut. Vous savez, quand on prend l'avion, qu'on regarde ou quand on est en montagne, on regarde en bas, tout nous semble tellement chouette, tellement beau. Quand on est au milieu de notre jardin, on regarde les orties et les chardons, et on se dit « Oh !» Et vu d'en haut, c'est « Waouh !» Et je crois qu'avoir le regard de Dieu, c'est important, et fixer les yeux sur Dieu, c'est important. D'une part, avoir son regard et fixer les yeux sur lui. J'ai pensé à Pierre, du moment où il a regardé l'eau, il a coulé. Et si on commence à regarder toutes nos difficultés, tout ce qui ne va pas, tout ce qu'on voudrait voir différent, autant regarder un film puis aller se coucher. Hein. C'est pas le truc. Hein. Mais si on commence à regarder à Dieu, et le problème de ce qu'on va voir aujourd'hui avec Achan à propos d'Aï, justement, de Jéricho, c'est où il a posé ses yeux. Donc on va le voir tout à l'heure. Et où est-ce que Josué a fixé ses yeux? Où est-ce que Moïse a fixé ses yeux? C'est sûr que quand on construit une maison, je pense à Olivier, là, quand tu es en plein dedans, qu'on voit la saleté, le béton, les trucs qui n'ont ni queue ni tête, on se dit, comment on va y arriver? Puis si on regarde de plus haut, si on regarde les plans, si on regarde le produit fini, si on a une vision, c'est différent. Donc, notre vue nous influence beaucoup. Et il y avait un autre point ce matin. Pendant la louange, vraiment, c'était très fort. Le chant disait, « Fille de Sion, Dieu est au milieu de toi. » Et toute l'histoire de Josué est bâtie là-dessus. Toute l'histoire de Josué. Ça ne pouvait marcher que si Dieu était avec lui. Il n'y avait pas d'autre solution. Ne cherchons pas, il n'y a pas d'autre solution. Notre vie, notre couple, nos enfants, nos projets, l'Église, l'évangélisation ne marcheront que si Dieu est au milieu de nous, s'il marche avec nous. À tel point que je crois que c'était Moïse qui avait dit « Si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Vulgairement. Et c'est ce que j'ai envie de dire, Seigneur, si tu ne viens pas avec nous, ce n'est pas la peine. Si tu ne marches pas avec nous, ce n'est pas la peine. Alors, le problème, c'est que ça ne marche pas en ce sens-là. Ce n'est pas moi, j'y vais, puis Dieu me suit. Seigneur, tu marches devant et je marche derrière. Ça, c'est un peu plus difficile. Gardez les yeux fixés sur lui. La conquête ne marchera que s'il est avec nous et si on a les regards fixés sur lui. Alors, c'est facile à dire, mais ce n'est pas forcément facile à faire. Je pense que vous avez tous des Jéricho. Puis quand on tourne autour, on ne peut pas s'empêcher de voir. Il faut déjà regarder où on met les pieds. Je ne sais pas ce qui tombait des murailles. Il n'y avait pas de tomates encore, ça devait être autre chose. Il y avait certainement des œufs pourris. Il devait recevoir certains projectiles, j'imagine, hein, parce que quand même, moi, j'aurais été là-haut sur les murailles, j'aurais pas trop apprécié qu'on tourne autour de ma ville comme ça. Et il y a des enfants qui devaient s'amuser là-haut, etc. Et ça devait pas être facile de garder les yeux fixés sur Dieu devant une impossibilité pareille. Et je pense qu'on a tous dans notre vie des impossibilités. On se dit, mais comment est-ce que mon patron peut venir au Seigneur? Comment est-ce que mes collègues peuvent venir au Seigneur? Comment Hein, c'est pas possible, c'est même pas imaginable. Et pourtant, moi je me souviendrai toujours d'un des baptêmes qu'on a fait, c'était en 99, je crois. Il y avait une dame qui était assise là. Je savais pas qui c'était. On baptisait une dame des Mureaux qui a déménagé malheureusement juste le mois d'après dans le sud de la France. Et elle a donné son témoignage, comment quand elle a connu le Seigneur, elle a commencé à prier pour sa patronne qui était infecte. Enfin, elle l'a pas dit comme ça, mais ça revenait à ça. Et elle a commencé à prier pour elle. Et sa patronne l'a trouvée tellement changée qu'elle a posé des questions. Et elles sont devenues amies. Et la patronne était assise là, au premier rang. Ça m'a frappée, parce qu'elle pleurait. Elles étaient devenues tellement amies qu'elle était venue à son baptême et qu'elle pleurait d'entendre le témoignage, alors qu'elle se bouffait en salade au début, quoi. Et je crois que c'est ça qu'on est appelé à voir. Hein, c'est ça, nos Jéricho. Ça a été son Jéricho. Elle l'a réussi. Toute nouvelle chrétienne. Donc, tous nos Jéricho, je crois qu'on peut les porter dans la prière. Si Dieu marche avec nous, si on y va par notre force, notre intelligence, notre sagesse, on est mort d'avance, c'est même pas la peine d'essayer. Mais si Dieu marche avec nous, je crois qu'il faut bien se garder ça à l'esprit. Et il y a des moments où Dieu nous demande une foi totale. Je veux dire, par là, il n'y avait pas énormément de signes humains quand on était en face de Jéricho. Les quelques signes humains qui pouvaient les encourager, c'était les paroles de Rahab. Vous savez, ils ont tous la trouille à l'intérieur. Ils savent tout ce qui s'est passé en Égypte, tout ça. Oh là là, ils sont morts de peur. Et puis, c'est tout, c'est à peu près tout, les paroles de Josué, on va y aller. Dis donc, c'est pas beaucoup hein, pour tourner autour d'une forteresse. Il n'y avait pas de faille dans le mur, il n'y avait pas de tremblement de terre la veille, il n'y avait pas quelque chose qui aurait pu leur dire, bon, ça va, il va se passer quelque chose. Il n'y avait rien d'autre que des tout petits signes. Mais c'était comme le petit nuage d'Élie. Et je crois que moi, j'ose demander à Dieu des petits nuages d'Élie. Vous savez, quelquefois, quand la bataille est rude, quand on a des grosses citadelles en face de soi, on dit, Seigneur, oh, sois gentil, un petit nuage d'Élie, ça nous ferait du bien. Vous vous souvenez, Élie, il priait, priait, priait pour que la pluie tombe, et puis il ne se passait rien, il repriait, il envoyait son serviteur, non, il n'y a rien, il repriait. Et puis à un moment, le serviteur revient en disant, ouh là, il y a un petit nuage grand comme la paume de la main, un petit point blanc là dans le ciel, c'est bon, Dieu a répondu. Effectivement, Dieu a répondu. Et je crois beaucoup ça, quand on est découragé, il ne faut pas avoir peur de dire, Seigneur, tu ne voudrais pas m'envoyer un petit nuage d'Élie, juste pour que je voie quand même que ça va venir. Et Dieu le fait, il est bon pour nous, il est miséricordieux. Donc eux, ils avaient très peu de signes, ce petit nuage qu'ils avaient, c'était juste les paroles de Rahab. On est au courant de ce qui s'est passé en Égypte et on a peur. Par contre, ce qu'ils avaient, c'était les promesses depuis Abraham. Attention, ça remontait loin. Hein. Les ordres qui avaient été transmis par Moïse, vous pourrez partout où marche votre pied, vous pourrez faire la conquête, etc. Et puis une stratégie très précise, transmise par Josué, tournée une fois par jour autour de la ville, et puis cette fois là, le dernier jour. Mais bon, pour nous lecteurs en 2011, c'est beaucoup, hein, quand on est au pied de la citadelle. Pour essayer de voir un peu, si un jour vous avez l'occasion de visiter une des citadelles de Vauban, il y en a une à Besançon, il y en a ailleurs en France, amusez-vous à marcher autour en pensant aux gens au temps de Josué. C'est très drôle, ça vous fait froid dans le dos. C'est fou. Et pourtant, donc faites l'expérience quand vous êtes autour de même d'un château du Moyen-Âge, de marcher autour en vous disant, voilà, je suis avec le peuple et je n'ai que des paroles. Ouais. Et face aux forteresses de la vie, nous avons aussi la parole de Dieu. Alors, la vérité, la parole de Dieu, et ça j'ai beaucoup été impressionnée par Elsa quand elle est revenue là, cette vérité qui rend libre, elle est puissante. Elle est puissante. C'est incompréhensible. Comment Dieu peut changer un caractère, Dieu peut changer une personnalité, Dieu peut renverser les forteresses de peur, de tristesse. J'ai entendu un témoignage intéressant là-dessus, c'était le pasteur de Strasbourg qui expliquait comment sa fille, déjà toute petite, avait une sorte de forteresse de tristesse dans sa vie. Et petite, vous savez comment sont les enfants, ils s'accommodent de tout, elle en faisait un peu un jeu. Mais il y avait cette tristesse énorme, énorme, parce qu'en fait, elle avait perdu... Ça, c'est psychologiquement intéressant. Perdu un jumeau dans le ventre de sa mère. Donc, elle était née, vivante, et l'autre était décédée. Et il y avait une tristesse qui régnait sur sa vie. Et comment Dieu a détruit cette forteresse de tristesse, c'était très intéressant. Je ne vous raconte pas tout le témoignage, mais c'était très intéressant. Et on peut avoir des forteresses comme ça en notre vie, des tristesses inexpliquées, un esprit d'échec, un esprit de doute. Et quelquefois, on n'arrive pas à en avoir le dessus. Ou de la culpabilité. Moi, je me souviens de quelqu'un qui me disait tout le temps, mais Dieu ne peut pas m'accepter avec ce que j'ai fait dans ma vie. On lui redonnait tous les versets, ça ne rentrait pas. Hein? Donc, il y a des forteresses parfois dans nos vies et il faut les abattre. Et Dieu est avec nous pour les abattre. Donc, la vérité de la parole de Dieu, c'est celle qui va nous rendre libres et qui est puissante pour détruire nos forteresses. On a les ordres de Jésus, croire, obéir, ça tient en deux mots. Pas facile à faire. La stratégie de Jésus, celui qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus, qui croit dans son cœur, c'est simple. Hein? Et puis, l'acclamation, la louange, l'adoration. Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. C'est exactement ce qui s'est passé autour de Jéricho. La louange, l'adoration. Alors, on ne fait pas ça pour gagner, mais quand on fait ça de tout notre cœur, on est gagnant. Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. C'est vrai aussi dans l'évangélisation. L'ennemi retient captif des tas de gens. Et parfois, je me dis, oh Seigneur, et je gémis, et je râle, et je rouspète sur les Français. Et puis parfois, je me dis, mais non, loué soit l'Éternel. Je suis délivré de mes ennemis. Tous ces démons qui tiennent les Français prisonniers, tu auras le dessus. Tu auras le dessus. Et on a entendu des choses vraiment encourageantes de ce côté-là. Acclamer le Seigneur. C'est ce qu'ils ont fait avant que les murs tombent, vous vous souvenez? Ils ont sonné la trompette, ils ont commencé à acclamer le Seigneur. Et là, le tremblement de terre a eu lieu. J'imagine que c'est un tremblement de terre, Dieu fait ce qu'il veut. Hein. Il a pu le faire sans tremblement de terre, mais il n'est pas du tout improbable qu'il ait utilisé les forces de la nature. Il est maître de tout. Donc pour Josué, j'avais dit, son honneur de chef militaire était un peu en jeu. Franchement, ce n'était pas très élogieux pour sa réputation de se contenter de marcher autour d'une ville. Mais bon, il l'a fait, il a obéi, il était sage. Et il a empêché les gens de parler, j'avais dit la dernière fois, pour pas qu'ils se découragent les uns les autres. Les paroles de découragement, c'est vite fait. J'avais parlé aussi du symbole du coffre de l'Alliance, hein, la présence de Dieu au milieu d'eux. Il fallait quand même quelque chose de concret. Ils n'avaient pas le droit aux statues, aux images taillées, heureusement. Mais Dieu avait quand même voulu quelque chose de concret. Et ce coffre qui contenait la loi, les tables des 10 commandements, le choix de Dieu avec la verge d'Aaron, etc. Tout ça, c'était dans le coffre. Et c'était un souvenir, et les pierres aussi. Hein. C'était un souvenir de Dieu est avec eux. Et un peu de manne aussi. Rappel de l'obéissance, de l'attachement à Dieu, du choix de Dieu et du fait que Dieu pourvoit avec la manne. Donc ils avaient ça sous les yeux pour leur rappeler Dieu est grand, Dieu est puissant. Et c'est pour ça que c'est important, j'avais dit la dernière fois, qu'on se rappelle tout ce que Dieu a fait. Ça nous aide dans la marche. Ça nous rappelle que Dieu marche avec nous. Les murs se sont donc écroulés, tout va être détruit, sauf bien sûr, la promesse est tenue, la famille de Rahab. Ça c'est formidable. Ils ont tenu leur promesse à une païenne. Ça détruit un petit peu quelques idées fausses qu'on a. Hein. Parfois, quand on lit rapidement l'Ancien Testament, où les païens valent rien, et puis il n'y en a que pour le peuple de Dieu, ce n'est pas vrai. Rahab a accepté, elle a fait partie du peuple. Et très intéressant, ils l'ont installée hors du camp pendant un certain temps de purification. J'imagine que les hommes ont été circoncis, etc., pour être intégrés après à la population. Et il y a eu un temps de purification avant qu'ils rentrent dans l'Alliance avec le peuple. C'était ça, c'est intéressant. Donc ils sont restés un petit peu hors du camp, puis après ils les ont installés et intégrés totalement au peuple. Dans cette ville, l'or, l'argent, le bronze, le fer étaient consacrés au Seigneur, pas question d'y toucher. Et le reste devait être brûlé. C'était un symbole fort pour dire on ne prend rien des païens. Il faut savoir qu'à cette époque, presque tout était gravé, consacré aux divinités, etc. Donc c'était d'autant plus problématique. Rahab, quand elle était hors du camp avec sa famille, ils ont été instruits des lois de Dieu pour rentrer dans le peuple, ça c'est clair. On va lire chapitre 7. Parce qu'ils sont arrivés là, ils viennent de faire une conquête formidable. Vous vous imaginez une ville qui s'écroule, un butin extraordinaire, bon, consacré à Dieu. Je ne sais pas comment on se sent après une victoire comme ça. Hein. Ben oui, ça leur a monté à la tête. Alors, on en est là. On termine l'histoire de Jéricho avec « Le Seigneur était avec Josué et on entendit parler de lui dans tout le pays. » Waouh ! Chapitre 7. Mais, quand un chapitre commence avec « mais », c'est embêtant. « Mais les Israélites commirent un sacrilège en matière d'anathème, c'est-à-dire des choses consacrées à Dieu. Achan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, en plus la tribu royale, prit une part de ce qui avait été frappé d'anathème et le Seigneur se mit en colère contre les Israélites. Josué envoya des hommes de Jéricho, Véraï, qui près de Beth-Aven, à l'est de Bethel. Il leur dit « Montez, espionnez le pays. » Ah, on fait ce qu'on connaît. Premier petit problème de la part de Josué, c'est pas méchant, mais il est tenté de reproduire ce qui a marché la dernière fois. Et nous, on fonctionne beaucoup comme ça. Ça a marché, donc on fait pareil. Ça, c'est logique humainement. Donc il envoie des espions. Jusque-là, c'est pas trop mal, il y a un petit souci. Ces hommes montèrent pour espionner le Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent « Ah, ah, que tout le peuple ne monte pas à l'assaut. » Non, mais ils n'étaient pas là pour ça, au fait. Un espion, son rôle, c'est de dire « J'ai vu, j'ai entendu et je rapporte. » Là, on le voit donner presque un ordre à Josué. Que tout le peuple ne monte pas à l'assaut. Que 2 ou 3 000 hommes montent à l'assaut, ils battront le Haï. N'impose pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont peu nombreux. Environ 3 000 hommes du peuple montèrent à l'assaut et ils durent s'enfuir devant les hommes de Haï. Les hommes de Haï abattirent environ 36 d'entre eux. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Chebarim et les battirent à la descente. Le cœur du peuple, j'aime bien ce verset, le cœur du peuple fondit et devint comme de l'eau. J'aime bien l'image. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient en pleine victoire. Alors là, le pauvre Josué, il a fait une erreur grossière. Il a écouté les espions. Les espions n'étaient pas là pour ça. Quand les gens sortent du rôle qu'ils ont, c'est toujours dangereux. Dieu nous appelle à faire certaines choses et pas forcément d'autres. Et les Français, André disait toujours, contrairement aux Allemands par exemple, ont cette tendance au travail de toujours regarder ce que fait l'autre au travail. Et apparemment, ce n'est pas le cas d'autres peuples. Le Français, il veut toujours faire autre chose que ce qu'il est en train de faire. Du coup, ça le rend très inventif. Hein, c'est ce que tu dis, parfois, c'est très bien. Mais parfois, ça pose de sacrés problèmes. Parce que le Français, il ne peut pas rester sur sa tâche. il veut changer ci, changer ça, regardez ce que fait l'autre à côté. Et les espions sont sortis de leur rôle. Dieu leur avait demandé de faire un rapport clair sur ce qui se passait dans le pays. Ils sortent de leur rôle, ils donnent des conseils à Josué. Et Josué n'a pas été attentif. Il a écouté la logique humaine des espions. C'est un peu dommage. Et Josué va plus loin, il oublie de consulter le Seigneur. Il ne va pas demander conseil, même au prêtre. Il oublie de consulter le Seigneur. Il écoute le rapport. Ça ne pouvait pas être plus logique. Seulement, il avait oublié une chose. Qui avait remporté la victoire sur Jéricho? C'est Dieu, ils n'avaient rien fait. Vous n'allez quand même pas dire que le fait de chanter, c'est faire la guerre quand même. Et les espions sont tellement bloqués là-haut, ils sont sur la victoire, ils oublient que ce n'est pas eux qui l'ont remporté. Ils disent, là, on n'a pas besoin d'autant de monde que pour Jéricho. Oh, bon, c'est sûr, tiens. C'est insensé, il n'y avait besoin de personne à Jéricho, à la limite. C'est Dieu qui a tout fait. Mais c'est resté dans leur tête. Et ça, c'est un processus qu'on voit très souvent chez les chrétiens, parce qu'on est humain. Dieu nous a donné une victoire et on s'imagine. Je ne sais pas par où ça passe, ça ne doit pas passer par notre cerveau, en tout cas, que c'est nous qui sommes responsables de cette victoire. Et on va voir des églises qui vont... Et on n'est pas à l'abri, hein. Pour ça que je le dis... qui vont dire, on a vécu ça et ça, on est tellement bon, faut dire, puis on prie tellement, faut dire que nous, on a 3 réunions de prière par semaine, et puis si, puis ça, et puis voilà. Non, tout est grâce. Hein. Et, mais c'est normal qu'on ait beaucoup, beaucoup de nouveaux, on a le groupe de louanges, le meilleur du pays. Non. La seule chose qui change les cœurs, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Vous savez, quand Wesley a amené un réveil extraordinaire en Angleterre, il n'avait rien, et il y a même des villages où il se recevait des cailloux. Si vous lisez la vie de Wesley, c'est inimaginable. Et on parle encore aujourd'hui des églises méthodistes, encore des très grandes églises, certaines sont vivantes, d'autres ne le sont plus. Je crois savoir que Rémi est dans une église méthodiste en Angleterre. Mais c'est pour vous dire, c'est pas nous, on est responsable de rien. On a 2 responsabilités, croire et obéir. Et on ne s'en vante pas. C'est curieux d'ailleurs. Donc, Josué ne consulte pas le Seigneur, il ne va pas demander conseil. Et les hommes sont dans une logique humaine, on n'a pas besoin d'être nombreux. Voilà, on n'a pas besoin d'être nombreux, ça marchera tout seul. Complètement faux. Ils ont complètement oublié que la victoire était miraculeuse, ça leur a monté à la tête, ils s'attribuent le succès. Et il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que de s'attribuer le succès. Si Dieu vous a donné un don, quel qu'il soit, quand les gens vous font des compliments, n'oublions jamais de dire... Merci Seigneur. Oui, c'est vrai, c'est bien, j'ai bien fait ce que j'ai fait, mais merci Seigneur. La victoire miraculeuse leur est montée à la tête, ils s'attribuent le succès, il n'y a rien de pire. Et puis, c'est le nombre qui va dicter leur conduite. On ne doit jamais être dicté par les nombres. Israël est assez fort pour la victoire, et ils ne disent pas un mot sur la victoire de Dieu, et on va à l'assaut, et bien sûr, c'est l'échec. Incroyable. Si Josué avait consulté Dieu, Dieu aurait pu le prévenir. Il y a un problème, Josué. Il lui aurait dit, je suis sûre qu'il lui aurait dit. Ne monte pas, Haï, il y a un problème dans ton peuple. Il ne lui a même pas donné l'occasion de parler. Et vous savez, parfois on se dit, mais Dieu aurait pu me prévenir. Dieu prévient ceux qui lui demandent. Et ça, dans ma vie, je l'ai remarqué. Combien de fois j'ai râlé après Dieu. Seigneur, mais tu aurais pu me prévenir. As-tu demandé? As-tu consulté? Vous ne pouvez pas accuser votre médecin de ne pas vous dire quelque chose qui ne va pas si vous n'allez pas le voir. Hein. Vous n'oseriez pas. Mais on le fait avec Dieu. Si Josué ne s'était pas laissé influencer par les espions, il aurait pu s'attendre à Dieu au lieu de compter sur son armée. C'est l'échec et la défaite qui vont ramener Josué, où ça? Devant le coffre de l'Alliance, avec les anciens du peuple. Et là, leur cœur devient comme de l'eau. Josué déchire ses vêtements, tombe à face contre terre devant le coffre du Seigneur jusqu'au soir, lui et les anciens d'Israël. Ils se jetèrent de la poussière sur la tête. C'était spectaculaire quand on se repentait dans ce temps-là. Josué dit, Seigneur Dieu, pourquoi tu fais passer le Jourdain à ce peuple? On a déjà entendu des choses comme ça. Hein. Il est découragé, le gars-là. Si c'était pour nous livrer aux Amorites et pour nous faire disparaître. Il est vraiment découragé. Si seulement nous avions décidé de rester en Transjordanie. C'est pas permis, ça, chez Josué, hein. Alors, consolez-vous, il n'était pas mieux que nous. Hein, dans ce côté-là, là, ce jour-là, il n'était pas mieux que nous. Et puis, il se reprend. Pardon, Seigneur. Mais que vais-je te dire? C'est rigolo, hein? Il se rend compte qu'il est allé un peu loin. Après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis, les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Et là, il touche un point. C'est ça, le problème. Et ils nous encercleront, retrancheront notre nom du pays. Et que feras-tu pour ton grand nom? Et oui, chaque fois qu'on fait une bêtise, c'est le nom de Dieu qui trinque. Chaque fois qu'on rend mauvais témoignage au travail, c'est le nom de Dieu qui va trinquer. Pour un chrétien, t'as vu ça, ce qu'il a dit ? Pour un chrétien, t'as vu ça, ce qu'il a fait ? Quand j'étais en mission en Angleterre, on avait un chant qu'on nous apprenait au début, parce qu'on faisait une mission sur les plages avec les enfants, et le chant disait « Ils t'observent, ils regardent tout ce que tu fais, ils écoutent tout ce que tu dis. Laisse-les voir Christ en toi. » Et ça nous mettait la pression. Mais c'est vrai, les gens nous observent, ils ont raison de nous observer. Vous ne voudriez pas quand même changer, entre guillemets, de religion, c'est comme ça qu'ils appellent ça, pour être comme quelqu'un qui est nul ? Enfin, je ne sais pas, moi je trouve ça normal qu'ils nous observent. Si moi je veux changer, je veux quand même voir où ça va. Hein, quand on choisit un métier, qu'est-ce qu'on fait ? On va à une porte ouverte, les jeunes, là. Et vous questionnez les gens pour voir comment ils aiment leur métier, qu'est-ce qu'ils font, comment ils le gèrent, etc. Et si on veut devenir chrétien, si des gens sont intéressés, moi je trouve normal qu'ils regardent comment on vit. Et si on vit une vie pourrie, bah, c'est sûr que ça ne leur fait pas envie. C'est pour ça que le Seigneur a dit, soyez le sel de la terre, la lumière du monde. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé à la porte ouverte à l'école ? S'ils avaient trouvé les instits lamentables et qui passaient leur temps à se disputer ou à crier sur les enfants, bon, c'est clair, ils ne vont pas mettre leurs enfants là-dedans. Je crois que ils nous regardent, ils nous écoutent. Alors, il ne faut pas en faire une paranoïa. Hein. Mais vraiment, dire « Seigneur, brille en moi. » Parce que moi, tout seul, ça ne va pas être génial. Et ce qu'ils ont besoin de voir, c'est que bah, je suis humaine comme les autres. Je suis capable de faire des bêtises. Je suis capable aussi de demander pardon. Parce que ça, ils y sont sensibles. Et qu'ils voient qu'on est normaux. Hein, parce que faire les petits chrétiens 3 fois 5, ça ne marche pas. Ils ne sont pas fous. Mais au moins, être naturel, mais être rempli du Seigneur. C'est important. La leçon est claire, dans cette conquête, il ne faut pas, dans toutes nos conquêtes, il ne faut pas s'appuyer sur notre sagesse, notre stratégie et nos habitudes. Mais on a toujours fait comme ça. Ou bien on va faire comme ci, comme ci, comme ça, la dernière fois ça a marché. Non, on ne peut pas s'appuyer sur la sagesse des hommes, même si elle est logique. Hein, c'était logique, il n'y a pas beaucoup d'ennemis, donc pas la peine d'envoyer beaucoup de soldats. Puis en plus le peuple est fatigué. C'était parfaitement logique et parfaitement humain. Mais c'était faux, c'est tout. S'appuyer sur Dieu seul. Une grande victoire ne signifie pas qu'on est bon, mais que Dieu nous accompagne et nous donne ce qu'il faut pour réussir. Et moi, je prie que le jour où notre Église, je crois qu'on va rentrer en cette période, va remporter de grandes victoires, qu'il n'y en ait pas un parmi nous qui ose dire qu'est-ce qu'on est bon, mais qu'est-ce que Dieu est bon. Et ça, vraiment, c'est un poids. J'en parlais d'ailleurs avec Hélène et Philippe il n'y a pas très longtemps. C'est un poids de me dire, Seigneur, je voudrais tellement rentrer dans ce temps de miracle, de bénédiction, mais surtout ne permets pas qu'on s'attribue ces choses-là. Veillons les uns sur les autres, rouspétons les uns sur les autres si on entend quelqu'un dire « on est bon, oh, c'est parce qu'on est une bonne église ». Non, surtout pas, pour qu'on ne rentre pas dans cette dynamique, parce qu'après c'est une dynamique de défaite. Donc non, si on veut rester dans la victoire, ne nous attribuons pas ce que Dieu fait. Je pense aussi à cette assurance qu'on a quand on a du succès. Et là, je vais vous donner le témoignage de la sœur qui dirige la culture biblique chez nous, sœur Marie-Paul, certains la connaissent. Elle était très bonne en maths. Et quand elle a passé le bac, elle raconte toujours que, bon, elle priait normalement pour ses études et tout, elle avait une relation personnelle avec le Seigneur. Mais elle était tellement bonne en maths que pour son bac, le bac S, donc à l'époque c'était le bac C, elle était sûre d'elle. Aucun problème. De toute façon, les maths, c'est pas compliqué. Hein. Une fois qu'on est bon, on est bon. Hein. C'est pas comme en français, on peut avoir un 15 ou un 2. Bon, on peut rater son sujet. Mais en maths, il n'y a pas 36 solutions. On est bon ou on n'est pas bon. Et comme elle dit, j'ai pas prié. Je suis arrivée au bac détendue et tout. Et elle s'est étalée. Et elle s'est dit, mais pourquoi ? Et elle a compris. Elle s'était appuyée sur elle. D'habitude, elle priait toujours quand elle faisait quelque chose. Qui n'a pas fait ce genre d'expérience ? Après des succès, on se croit fort et l'ennemi le sait. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Dans toutes tes voies, reconnais-le. Vous connaissez la suite et la planira tes sentiers. Et un de mes versets préférés, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, même si cet homme, c'est nous. Maudit, vous vous rendez compte, c'est grave. Et béni soit celui qui se confie en l'Éternel. C'est pas magique, c'est simplement ce que Dieu nous demande, c'est une question d'obéissance. Et là, ils vont apprendre le péché d'un homme et d'une entière famille. C'est quand même moche. Toute la famille s'est associée à lui. Chapitre 7. Le Seigneur dit à Josué, lève-toi. Pourquoi tombes-tu face contre terre ? Israël a péché. Ils ont passé outre à l'alliance que j'avais instituée pour eux. Ils ont pris une part, vous voyez, l'alliance. Ils ont pris une part de ce qui était frappé d'anathème. Ils l'ont volé, dissimulé et mis dans leurs affaires. les Israélites ne pourront pas tenir devant leurs ennemis. Alors vous allez me dire, oh, mais alors, Dieu a, il attendait au coin du bois, là, pour les punir? Non. À partir du moment où ils désobéissaient, ben, ils ne pouvaient plus tenir devant leurs ennemis. C'est tout. Dieu n'est pas au coin du bois pour nous taper dessus. Mais si on ne prend pas notre parapluie, on sera mouillé quand il pleut. Les Israélites ne pourront pas tenir devant leurs ennemis. Ils s'enfuiront devant leurs ennemis, car ils sont eux-mêmes frappés d'anathème. Du coup, ils rompent l'alliance. Du coup, ils sont sous anathème eux-mêmes. Ils sont rejetés. Si vous ne faites pas disparaître, si vous ne le faites pas disparaître de votre sein, lève-toi, consacre le peuple, etc. Et ils vont découvrir, je passe parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, qu'il s'agit d'Acan. Et il dit, Josué dit, mon fils, je te prie, donne gloire au Seigneur. La confession, ça donne gloire au Seigneur. Dis-moi ce que tu as fait, ne me cache rien. Et Acan va répondre. Et vous voyez, la réponse d'Acan est intéressante. C'est vrai, c'est moi qui ai péché contre le Seigneur. Voilà ce que j'ai fait. 1. J'ai vu. Pour ça, je parlais tout à l'heure des yeux. Sur quoi on pose nos yeux. Et moi, je me mets à la place d'Acan. Il a été élevé dans le désert. Ils ont manqué de beaucoup, beaucoup de choses. Et ils arrivent dans cette ville. C'était fantastique, hein, Jéricho, ils étaient riches. Et ce fameux manteau de Chinéar, j'ai regardé un petit peu dans les commentaires des archéologues et tout. Ça devait être un manteau probablement brodé avec des fils d'or. Et certains pensent qu'il y avait même des insignes des divinités dessus, qui étaient brodés, ce qui expliquerait encore le problème. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Chinéar. J'ai vu. Et il a fixé ses yeux là-dessus. Et quand on a manqué de beaucoup de choses, ça peut s'expliquer. 200 sicles d'argent et un lingot d'or, pesant à lui seul 50 sicles. J'ai vu. Donc deuxième étape, j'en ai eu envie. À partir du moment où on met nos yeux sur quelque chose, on en a envie. D'où l'intérêt de commencer par les yeux, si on veut être tranquille. J'ai vu, j'en ai eu envie, et la troisième, évidemment, je les ai pris. Mais on ne s'arrête pas là quand on croit en Dieu, parce que c'est quand même un problème. Donc, ils sont maintenant cachés à l'intérieur de ma tente. J'ai vu, j'ai pris, j'ai eu envie, pardon, j'ai pris. Merci. Et je les ai cachés. C'est le mécanisme du péché. J'ai vu, j'ai pris, j'en ai eu envie, j'ai pris et j'ai caché. Et là, c'est la cata. Parce qu'une fois que c'est caché, on ne peut plus rien faire. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Je pense que si de lui-même, voyant la défaite, il était allé courir auprès de Josué et dire « j'ai péché », etc. Ça aurait pu être différent. Mais là, il a caché jusqu'au bout. Il a attendu qu'on nomme sa tribu, sa famille, son clan, etc. pour dire « oui, d'accord, c'est moi ». Non, c'est pas le mieux, c'est d'aller vers Dieu et de dire tout de suite « j'ai péché ». Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, si ça peut vous rassurer. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc le mieux, c'est de... Celui qui confesse ses transgressions, celui qui cache ne prospère pas. Celui qui confesse et les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Donc, ne cachons pas, ce n'est pas la peine. À Dieu, on n'a pas forcément besoin de le dire à tout le monde, mais à Dieu, il faut confesser nos péchés à Dieu. Canaan était un héritage divin, c'était un don de Dieu. Et en violant l'alliance, le peuple fermait les vannes de la grâce. Il avait cassé l'alliance. Ce n'est pas Dieu, hein. Dieu n'a jamais cassé son alliance. Hein. Mais lui, il l'a cassé. Et du coup... C'est lui qui fermait les vannes de la grâce en empêchant le cours d'intervention divine. Et ce n'est pas la supériorité numérique qui va leur permettre de vaincre si Dieu n'est pas avec eux, ça on l'a déjà dit. Le butin d'Acan, en fait, ce n'est pas grand-chose. Et ça, ça choque. Hein. Quantitativement, il n'a pas volé grand-chose si on considère tout ce qu'il devait y avoir dans Jéricho. On va dire, mais ce n'est pas grand-chose. C'est un péché véniel. N'empêche que si vous avez une chaîne avec plein de maillons, vous avez des gros maillons puis des petits maillons. Du jour où vous avez cassé même un tout petit maillon, la chaîne, elle est cassée. C'est ça le problème. Ce n'est pas quantitatif avec Dieu, c'est qualitatif. Convoitise, désobéissance, il va impliquer toute sa famille là-dedans. Il va cacher son péché avec la complicité des autres. Et là, autant l'obéissance permettait la conquête, autant le péché va amener la défaite. Et c'est pareil dans notre vie. Par rapport aux victoires qu'on a besoin de remporter sur soi, par rapport même à l'évangélisation. Si on veut conquérir le pays, ben, il ne faut pas hésiter à faire du nettoyage. Et on en a tous à faire, consolez-vous. Tous, petits et grands, et plus on est vieux, j'imagine, plus on en a. Hein, c'est ce que dit la Bible à propos de la femme adultère. Hein, c'est les plus vieux qui sont partis les premiers. Donc nous, les plus vieux, on a encore plus de ménage à faire que les autres. Voilà. Donc Achan et sa famille vont être lapidés et brûlés, et ça, ça nous choque. Il faut se rappeler qu'on est en temps de guerre, et nous-mêmes, 21e siècle, en temps de guerre, les lois sont plus sévères. Un déserteur en temps de guerre, aïe, aïe, aïe. Un traître en temps de guerre, même nous, on ne fait pas de cadeaux. Hein. En temps de guerre, les lois sont beaucoup plus sévères. Hein. Il faut penser à ça quand on lit l'Ancien Testament. On est en temps de guerre. Et Dieu voulait faire aussi montrer l'horreur du péché. Et il va être enterré, enfin, sous un monceau de pierre, dans la vallée d'Achor. Et on va retrouver cette vallée d'Achor dans différents textes de la Bible. Parce qu'elle a marqué les esprits. Un endroit où on a tué et brûlé ceux qui avaient désobéi à Dieu, c'est quand même énorme. Recouvert d'un monceau de pierre dans cette vallée, c'est resté, c'était une, pour eux un symbole de péché, de désobéissance. Et il y a un verset dans la Bible qui est merveilleux qui dit « Cette vallée d'Achor deviendra une porte d'espérance. » Très important. Là où le péché a été enterré en quelque sorte, là où Jésus, hors du camp, c'était hors du camp, hein, a été crucifié, Jésus a pris notre place hors du camp. C'est un verset qui revient dans Luc, 2 Corinthiens, Hébreux. Il a pris notre place hors du camp et c'est devenu une porte d'espérance pour nous. Il a porté tout notre péché, de la même façon qu'Achan a été tué pour son péché. Et Jésus, c'était pour le nôtre. C'est pour ça que la vallée d'Achor est devenue une porte d'espérance. C'est un très très beau symbole dans l'Ancien Testament. Josué est visiblement très très secoué quand on commence le chapitre 8. Et pour la conquête d'Aï, je ne vais pas trop m'attarder parce que je voudrais juste dire un petit mot sur Gabaon avant de terminer. Mais il écoute Dieu. Les premiers mots que Dieu va lui dire, n'aie pas peur. Il y avait de quoi, hein, après l'histoire d'Achan. Ne sois pas terrifié. Prends avec toi tous les hommes de guerre. Prépare-toi à attaquer Aï. Et là, Dieu va lui donner la stratégie. Et là, c'est une stratégie pas du tout dans le style de la première. C'est une stratégie purement militaire. Avec embuscade, signal. Enfin, formidable, hein. Ceux qui aiment bien les jouer aux petits soldats, là, c'est vraiment magnifique. C'est une stratégie purement militaire qui va fonctionner. Ils vont aller devant la ville. La nuit, il y a toute une partie de l'armée qui s'est cachée, qui s'est mise en embuscade. Les soldats vont sortir de la ville pour les mettre en pièces. Ils font faire semblant de s'enfuir. Ça marche très bien. La ville se vide. Tous les hommes partent pour prendre le butin et prendre leurs armes et les tuer. Et puis pendant ce temps-là, l'embuscade rentre dans la ville, brûle la ville et c'est terminé. Et là, ils avaient le droit de garder les richesses. Les prémices étaient réservées à Dieu. Première grande ville, c'était pour Dieu. Deuxième, ils avaient le droit de garder le butin. Et donc, c'était vraiment bête. Achan a vraiment été bête. Pourquoi le prendre alors que dans la ville suivante, ils avaient le droit de le garder? Et voilà, on est comme ça. Dieu va donner donc une stratégie totalement militaire. Et là, j'insiste sur le point que Dieu change tout le temps. Non pas qu'il change de cœur ou qu'il change d'attitude, mais il a des stratégies différentes suivant les temps de notre vie. Hein. On dira, ah ben cette fois-ci, là, j'ai pour régler ce problème, j'ai jeûné 8 jours, j'ai fait ceci, donc je vais le refaire la fois plus suivante. Ce n'est pas forcément ce que Dieu demande. La fois suivante, je vais peut-être demander autre chose. Les relations humaines, c'est pareil. Ah, oh, mais là, j'ai réglé comme ça. Mais la fois suivante, peut-être Dieu va demander autre chose. Il y a des principes à respecter, mais la façon de procéder, elle peut changer avec Dieu. Et il faut être sensible. Alors c'est embêtant parce que ça nous oblige à être à l'écoute de Dieu. Ça nous oblige à dépendre de Dieu. Aïe, 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 on ne peut pas se débrouiller tout seul. Eh bien non, c'est clair. Et vous savez, il y a un verset dans la Bible qui m'est revenu en tête, c'est Éphésiens 3, 10, et parle de la sagesse de Dieu infiniment variée. Mais c'est génial d'avoir un Dieu qui est varié. Vous ne trouvez pas que c'est moche la routine où il faut pas, tu dois pas, tac, tac, tout est carré, tout est bouclé, on met dans une petite boîte et c'est fini. Avec Dieu, c'est tout le temps varié. Ça, c'est chouette. Mais ça demande de notre part une dépendance. Dieu est créatif. Dieu est un artiste. Il suffit de regarder autour de nous, hein, voir la nature. En microscope, c'est encore plus chouette. Même les petites cochonneries, là, les petits trucs allergènes, quand on les voit au microscope, c'est moche, mais c'est inventif. Dieu est créateur. Il nous oblige à vivre en dépendant de lui et en le consultant. Il ne s'agit pas d'appliquer des recettes. Et ça, dans les mouvements évangéliques, attention, les gens vont vous dire, il n'y a qu'à faire ceci, il n'y a qu'à faire cela. On donne et puis on reçoit. Et puis nanana. Pas de recette. Quand vous sentez venir une recette, fermez vos oreilles. Il n'y a pas de recette. La recette, c'est dépendre de Dieu et l'écouter. C'est logique d'ailleurs parce qu'on a une relation avec lui. Vous imaginez, oh ben j'ai pas besoin de consulter Dieu, je sais ce qu'il faut faire, je jeûne machin, je fais ci, je fais ça, je donne plein d'argent et puis voilà, tout va s'arranger. Bon, Mais non, ça ne marche pas du tout comme ça. Dieu ne contredit pas ses principes. Il n'agit jamais comme une machine face à des situations analogues. Le Saint-Esprit va nous conduire par des chemins différents. Alors là, les jeunes, c'est chouette. La vie chrétienne, ce n'est pas une routine, je peux vous le dire. Pas une routine. Il y a des moments où c'est même marrant parce que Dieu nous surprend. Dieu fait des choses complètement inattendues. Parfois, il nous fait attendre un temps fou, trop, toujours trop. Et puis, parfois, il intervient de façon impensable. Je crois que l'école chrétienne, c'est un peu les témoignages qu'on a eus. La vie chrétienne est super, super intéressante. Quand on est jeune, je trouve que c'est un bon challenge. On ne s'ennuie pas. Alors là, après, il va y avoir un passage où ils vont renouveler l'alliance avec Dieu. C'est super, vous le lirez, on ne peut pas en parler, mais c'est important. Alors, on peut se dire pourquoi, au plein milieu des conquêtes, ils sont en plein territoire étranger, ils passent du temps à renouveler l'alliance dans la plaine. Mais ils auraient pu être bouffés, on n'a rien de temps. Mais le peuple, les peuples autour avaient peur. Hein. Ils les ont laissés tranquilles et ils ont laissé renouveler l'alliance. Parce que Dieu avait dit, quand vous serez entrés, vous renouvellerez l'alliance. Et ils le font. Moi, je trouve qu'ils ont eu un courage. Moi, je suis assez peureuse. J'aurais été tout le temps là. Oh, tu crois pas qu'ils vont nous foncer dessus? Tu crois pas qu'ils vont nous foncer dessus? Mais non, ils l'ont fait. Et c'est merveilleux, d'ailleurs. Hein. Et on peut comparer aussi au sermon sur la montagne. Heureux celui qui. Hein. Il y a les bénédictions et les malédictions. Je ne peux pas en parler là. Peut-être j'en parlerai plus tard. Juste un épisode pour terminer, c'est les Gabaonites. C'est un épisode qui m'a frappée depuis toujours. Ils étaient là, ils avaient renouvelé l'alliance. Et voilà qu'arrive devant eux, je vais résumer, tout un tas de gens habillés en haillons, sales, poussiéreux, avec des sacs tout rapiécés, qu'ils ont l'air malheureux, ces braves gens, qu'ils ont l'air malheureux, et puis ils viennent de très très loin, et ils viennent voir les anciens d'Israël, ils viennent voir Josué en disant, voilà, on a entendu parler de la gloire de Dieu, on a entendu parler des hauts faits d'Israël, on vient de très très loin, regardez, et il y a quand même des petits malins, il y a des petits malins qui ont dit, mais dites donc, si ça se tombe, vous venez pas de loin. Les hommes d'Israël diront vite, peut-être habites-tu chez moi, comment pourrais-je conclure une alliance avec toi? Il y en a qui étaient un peu inquiets. Et ils ont dit, mais non, regardez notre pain, il était tout chaud quand on est parti. Ils avaient préparé tout, hein, comme dans les romans policiers. Notre pain, il était tout chaud, regardez. Oh, c'était des miettes toutes moisies. Nos vêtements, oh là là, tout déchiré, tout rapiécé, la poussière et tout. Ils avaient toutes les preuves. Et ils ont marché. Et ils ont fait une alliance. Et vous savez que dans la Bible, quand on faisait une alliance, et ça, je pense qu'on devrait s'en rappeler, nous, les chrétiens. Une alliance, c'est une alliance avec Dieu, devant Dieu, et on ne revenait pas dessus. À tel point que quand on mangeait, parce qu'ils vont manger avec eux, hein, c'est écrit, ils ont sorti leurs provisions et ils ont mangé avec eux. Je ne sais plus, ils prirent de leurs provisions sans interroger le Seigneur, j'aime bien. Parce que c'était là le problème, manger avec eux. C'était un signe d'alliance. D'où l'importance de la Sainte Cène. Ils prirent de leurs provisions sans s'interroger le Seigneur. On se dit, qu'est-ce que ça vient faire là? Prendre des provisions sans interroger le Seigneur? Ben oui, parce qu'à partir du moment où on mangeait avec quelqu'un, on partageait les provisions, on concluait une alliance indéfectible. C'en est pareil pour nous quand on prend la Sainte Cène. Du côté de Dieu, elle reste toujours indéfectible, hein, mais nous. Et quand on conclut une alliance, on ne pouvait plus trahir. C'était hors de question, on devait garder sa parole. On conclut une alliance devant Dieu. Et c'est même écrit très clairement, dans une des traductions, que Josué a coupé l'alliance, c'est-à-dire qu'il a fait ce fameux cérémonial, je crois que tout le monde sait maintenant, hein. On coupe l'animal en deux, on passe au milieu, l'autre passe aussi, ça veut dire que je sois traité comme cet animal si je romps l'alliance. Donc c'est clair, hein. Ils mangent ensemble, le sel, le pain, c'est fini. Et c'est encore vrai dans certaines tribus arabes. Hein. Si on partage le sel et le pain, on ne peut plus trahir la personne. Tout un tas de petites histoires là-dessus, mais on n'a pas le temps. Et donc, ils se laissent prendre par les apparences. Et 3 jours après, la Bible nous dit, ils apprennent.
C'était les voisins.
Alors, on peut voir ce texte de 2 façons différentes. D'une part, pour nous chrétiens, attention aux apparences. Je trouve, malheureusement, pour moi-même, je le vois par rapport à mes parents aussi, souvent, on s'est laissé prendre à des apparences, bonnes ou mauvaises. Là, des pauvres gens malheureux ou des gens super bien. L'habit ne fait pas le moine. Et le langage de Canaan ne fait pas le chrétien. Vous avez des gens qui maîtrisent parfaitement les versets bibliques, la connaissance biblique, qui vous éblouissent de leur connaissance et qui ne sont pas plus chrétiens que mes potes. Bon, attention au vocabulaire. Il y a des gens qui utilisent les mots justes, mais ils n'ont pas les actes qui vont avec. Et la Bible dit, regardez au cœur, regardez aux fruits. Qu'est-ce que ces gens produisent dans leur vie? à leur travail, avec leur famille, avec leurs enfants, avec leurs voisins. C'est là qu'on voit les fruits. Bon. Où est leur cœur? Parce que là où est leur cœur, là aussi sera leur trésor. À quoi est-ce qu'ils sont attachés? Parce que les mots et l'apparence, ça peut nous tromper. On peut croire quelqu'un de très moche. Vous savez, parfois, quand on fait de l'évangélisation, et ça, c'est important, parce qu'on rentre dans une session d'évangélisation, on regarde quelqu'un, puis on se dit, « Oh, je ne vais pas lui parler du Seigneur. Rien qu'à voir sa tête, il va m'envoyer promener. » C'est pas vrai. À peine vous parlez du Seigneur, les larmes coulent, les gens sont touchés. Et vous étiez convaincu que vous alliez vous faire bouler. Et inversement, parfois, on dit, « Oh, celui-là, oh là là, il a l'air tellement rempli d'amour, et puis il a un vocabulaire, et tout. » Et on commence à lui parler du Seigneur, « Wouhou !» Ne nous fions pas aux apparences, mais la solution, c'est consulter Dieu, toujours. Consulter Dieu, même pour des choses apparemment simples, sans danger et sans implication. Vous savez, parfois, il y a des choses dans notre vie qui sont extrêmement simples et qui nous ont coûté la peau. L'amitié, nos amitiés à l'école, à la fac, dans le travail, dans le voisinage. On fait confiance parfois à des gens, puis on est rudement déçus. Puis il y a des gens dont on se méfie. C'est cela qu'accepte l'Évangile. Attention à nos amitiés. En amour, on en parle très souvent, mais c'est vrai. Il y a un des pasteurs de Strasbourg qui m'expliquait ses soucis, et d'autres aussi, de manque de discernement dans le choix pour les futurs conjoints, qui entraîne des catastrophes. Attention à consulter Dieu. Le travail, oh, apparemment le travail, ça n'engage pas trop, on dit bon, j'en changerai. Hein. Ça peut vous coûter bien des soucis, hein. Priez pour ça. Toutes les relations, même pour les tout petits enfants. Tout petits enfants à l'école maternelle. Oh, ben oui. Qui vont fréquenter à l'école maternelle, ça peut changer le cours de leur vie. Parce que vous savez, il y a des enfants qui ont un impact sur les autres. Et c'est supposé être les chrétiens d'ailleurs qui ont cet impact sur les autres. Mais il y a des enfants malheureusement qui ont un très mauvais impact parce qu'ils viennent de familles dysfonctionnelles et qui vont impacter vos tout petits de 3-4 ans. Donc attention. Attention, consultez Dieu pour ces choses-là. Même si c'est une famille super sympa, priez quand même. Attention aussi à la fidélité, à la loyauté dans nos engagements. De ne pas prendre nos engagements avec Dieu à la légère. Et ça, c'est un mal du siècle, je pense, plus que jamais. Pas prendre nos engagements à la légère. Oh, je me suis engagée, mais bon. Attention, les alliances sont importantes, les alliances familiales, les alliances de travail... Les alliances, évidemment, du mariage. On tend à minimiser ces choses-là aujourd'hui. Mais il y avait un bon côté aux Gabaonites. Parce que j'ai regardé ce qui s'est passé après. Finalement, Dieu change le mal en bien. Ils ont fait une erreur, ils ont fait une bourde. Mais finalement, il y a un bon côté à cette histoire-là. D'abord, on s'aperçoit que la célébrité de Dieu est étendue à tout le pays. Que la crainte de Dieu s'étend. Et qu'il y a eu des gens suffisamment intelligents pour se dire, mais nous, on n'a pas envie de se faire rayer de la carte. On est prêt à accepter ce Dieu. Alors évidemment, ils s'y sont mal pris. Vous savez qu'ils auraient pu faire autrement. Il y a des versets de Moïse, de la loi de Moïse, qui disent que c'était possible. Ils pouvaient venir, demander à être circoncis, accepter le Dieu vivant et s'intégrer au peuple, comme Rahab. C'était faisable. Mais ils ne savaient pas trop, sans doute ils ne connaissaient pas le modus operandi, donc ils ne sont pas embêtés, ils sont allés à la ruse. Mais quelque part... Il y avait un bon côté. Ça veut dire, vous savez, quand j'étais petite, moi, c'était quelque chose qui me heurtait. On arrive, le peuple arrivait, il tuait tout le monde. C'était simple. C'est pas ce que Dieu avait prévu. Et si les Gabaonites avaient peut-être su un peu plus de choses, ils n'avaient même pas besoin de la ruse. Ils pouvaient venir et accepter le Dieu d'Israël. Il y avait une place pour eux. Parce que partout, dans les textes de Moïse et de Josué, vous avez ce verset. Et pour l'immigré qui habite au milieu de toi, qui n'est donc pas de souche juive, mais qui habite au milieu de toi. Il y avait une place. On a une place, nous, encore plus avec Jésus. Mais il y a une place. Dieu avait prévu cette place. Donc, ils n'avaient pas besoin d'user de ruse. Mais bon. Et donc, ils ont eu le courage de s'intégrer, d'accepter d'être serviteurs. Parce que quand ils ont été découverts, évidemment, ils se sont fait sonner les cloches. Mais on ne pouvait plus rompre l'alliance. Et ils ont dit, mais écoutez, on va être vos serviteurs. Et ils ont été affectés à quoi, ces braves Gabaonites? Au service du tabernacle. Couper le bois pour les autels. Couper le bois, faire le feu. J'ai dit quoi? Tabernacle? Oui, bah c'était le tabernacle à l'époque. Du temple de Dieu. Et ils vont rester comme ça pendant des années, des siècles. On va les retrouver au temps de Néhémie, après la déportation. Ils ont subsisté. Et quand le roi Saül en a tué des Gabaonites, ça a déclenché une famine. Dieu était en colère parce que l'alliance avait été faite. Des années après, Dieu est toujours fidèle à son alliance. Et ce mal, finalement, a été changé en bien. Et vous voyez, il y a une place. Et ça, c'est important que nous, chrétiens, on soit conscients qu'il y avait une place pour les païens. Hein? Et ça, pour les enfants, dites-le à vos enfants aussi, parce que parfois, quand on lit la Bible, on a l'impression que... Non, il y avait une place. Et les Gabonites, ils s'y sont mal pris, ils ont mal bâti leur alliance, mais il y avait une place pour eux, ils en ont profité, et ils ont été très fidèles toute leur vie à Dieu. Ils n'ont pas apporté leur Dieu, ils ont vraiment laissé leur Dieu de côté, ils sont restés fidèles. Ils sont allés en exil avec Israël, ils sont revenus d'exil, ils ont rebâti les murailles de Jérusalem avec Néhémie. Waouh ! La conquête après va aller de ville en ville, va s'étendre, et puis on va partager le pays. Là, vous le lirez vous-même, on reviendra peut-être un peu dessus plus tard. Josué va mourir à 110 ans, mais avant de mourir, il va refaire l'alliance avec le peuple. Avant de partir, il va être sûr que le peuple va être fidèle. Et la Bible nous dit que le peuple a été fidèle tout le temps de la vie de Josué et tout le temps de la vie des anciens qui ont accompagné Josué. Josué, pour nous, a été un modèle de fidélité à Dieu, de courage. Pour les jeunes, c'est important, de dynamisme et de persévérance. Moi, j'admire sa persévérance. Et il faut se dire que c'était un homme comme nous. Comme nous. Donc on peut faire ce qu'il a fait. Tout lui venait du fait. Qu'est-ce qui vraiment a marqué Josué et qui peut nous marquer, nous? C'est que Dieu marchait avec lui. Dieu marchait devant lui. Et on peut avoir les mêmes expériences. On peut vivre la même conquête. Et moi, je prie que dans l'évangélisation maintenant, on rentre dans cette conquête comme Josué. Que ce soit votre but tous les jours, tous les matins. Seigneur, aujourd'hui, je veux témoigner de toi. Je veux être le sel, je veux être la lumière là où je suis. Envoie-moi des gens qui ont soif de toi. Et vous allez conquérir, à mon avis, ville après ville après ville, dans votre vie personnelle, bien sûr. Si vous avez des forteresses de culpabilité, de crainte, de peur, vous aurez le dessus, parce que Dieu marche avec vous. Et rentrons dans la conquête du pays, amenons des gens à connaître le Seigneur, comme Josué, et on aura la victoire si on s'appuie sur Dieu, si on le consulte, et si on est bien conscient qu'on marche derrière lui. C'est la seule chose qui est importante, marcher avec lui.